Alors pour ce dimanche, j'ai choisi de vous lire l'histoire de Samson dans le livre des Juges. Alors nous avons dans cette histoire un super-héros, il a tout pour lui, ce Samson. Il est extrêmement fort, extrêmement intelligent, il est courageux, il aime la vie, il est même tout spécialement béni par Dieu, dès son origine, mais apparemment ça ne suffit pas tout à fait. Cette histoire nous aide à reconnaître notre force, notre propre intelligence, pour nous rendre compte que nous ne sommes pas si différents de Samson que cela, en réalité. Et cette histoire nous propose aussi un mode d'emploi de ces exceptionnelles qualités qui sont la nôtre. Car peut-être c'est ce mode d'emploi qui manque à Salomon. Et je crois que c'est le Christ qui nous montre le mode d'emploi de ces formidables qualités qui sont les nôtres. Alors d'abord, dans le début du livre des Juges, au chapitre 13, voilà ce qui se passe. L'ange de l'Éternel apparut à une femme en Israël et lui dit « Voici, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Les ciseaux ne passeront pas sur sa tête » parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des terribles Philistins. La femme enfanta un fils, elle lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit, l'Éternel le bénit, et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter. Un peu plus loin, au chapitre 14, il a des ennuis déjà avec les Philistins et une première fois, poussé par la vengeance, Samson s'en alla. Il attrapa 300 renards et il prit des flambeaux. Puis il tourna les renards queue contre queue, il attacha le flambeau entre les deux queues, au milieu, il alluma les flambeaux, il lâcha les renards dans les blés des Philistins et puis dans les champs d'oliviers, et ainsi il mit le feu au blé coupé et au blé encore sur pied jusqu'aux plantations d'oliviers. Alors bien sûr, les Philistins prennent ça à moitié bien. Ils se vengent à leur tour et Samson se venge encore avec un grand succès, par exemple en tuant 1 000 000 de soldats philistins avec une mâchoire d'âne qu'il avait trouvée comme ça par terre. Alors les Philistins trouvent ça, encore une fois, ils ont mauvais esprit, à moitié rigolo, et donc ils vont vouloir se venger et lier cet ennemi si fort, si terrible, dont ils ne savent pas quoi faire. Bon, pendant ce temps-là, Samson, tranquillement, sûr de lui, vit sa vie. Alors maintenant, je vais vous lire cette histoire, donc, au chapitre 16 du livre des Juges, l'histoire de Samson et Dalila. Samson aima une femme dans la vallée de Sorek, elle s'appelait Delila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Eh bien, flatte Samson, pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Comment nous pourrions le lier et le dompter, et nous te donnerons, si tu nous donnes le truc, nous lui te donnerons 1100 sicles d'argent chacun. » Delila dit à Samson, « S'il te plaît, dis-moi d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait t'attacher pour que nous puissions te dompter. » Alors Samson, il sent quand même un peu que ça tourne mal, alors il va lui donner 2-3 mauvaises fausses idées pour l'attacher. À chaque fois, Delila essaye de l'accrocher, à chaque fois, Samson, hop, se délivre grâce à sa grande force. Alors finalement, Delila dit à Samson, « Jusqu'à présent, tu t'es moqué de moi, tu m'as dit bien des mensonges. » « Maintenant, déclare-moi avec quoi il faudrait t'attacher pour pouvoir te maîtriser. » Et comme elle était chaque jour à le tourmenter en insistant et en insistant encore, son âme s'impatienta jusqu'à la mort. Samson lui ouvrit alors tout son cœur et lui dit « Les ciseaux ne sont pas passés sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère, mais si l'on me coupait les cheveux, si l'on me rasait la tête, ma force m'abandonnerait tout entière et je deviendrais si faible que je serais comme un tout autre homme. » Delila, voyant qu'enfin il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire « Montez cette fois tranquillement, car il m'a ouvert tout son cœur. » Les princes des Philistins montèrent vers elle, apportèrent bien sûr l'argent qu'ils lui remirent entre ses mains. Delila, alors, l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses qui étaient sur la tête de Samson et elle commença ainsi à le dompter. Il perdit toute sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois. Je vais me dégager. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins l'attrapèrent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza, ils l'attachèrent avec des chaînes de bronze et ils le firent tourner la meule qui était dans la prison. Mais dans la prison, peu à peu, ses cheveux commencèrent à repousser. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice de réjouissance pour leur dieu Dagon. Ils se disaient, « Notre Dieu nous a délivrés des mains de Samson, notre ennemi. » Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, « Oui, notre Dieu a délivré des mains de nos ennemis celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. » Dans la joie de leur cœur, ils dirent, « Qu'on appelle Samson et qu'il nous amuse. » Bon, je crois que c'était un peu un blagueur, donc il savait un peu amuser les gens. Ils firent sortir Samson de la prison, il se joua devant eux, ils le placèrent, c'était une mauvaise idée en fait, entre les colonnes de cette immense maison, immense temple du dieu Dagon. Et Samson alors dit au jeune homme qui le conduisait par la main, puisqu'il était aveugle avec les yeux crevés, « Laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose le toit de la maison et que je puisse ainsi m'appuyer sur les colonnes. » La maison était remplie d'hommes et de femmes, tous les princes aussi, des Philistins, étaient là, et il y avait sur le toit du temple environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer et s'amuser. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois encore, et que d'un seul coup je tire ma vengeance des Philistins, pour mes deux yeux qui ont été crevés. » Samson prit alors dans ses bras les deux colonnes sur lesquelles reposait la maison et il dit « Que je meure avec les Philistins !» Il se pencha avec une grande force et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr ainsi dans sa mort furent encore plus nombreux que tous les morts qu'il avait faits durant sa vie. Avant de réfléchir sur ce texte terrible et magnifique, eh bien, nous allons, si vous le voulez bien, chanter un psaume qu'on appelle le psaume des batailles, le psaume 68, la version B de ce psaume 68 dans le psautier français, que Dieu se montre seulement et l'on verra soudainement abandonner la place, le camp des ennemis épars. Les 3 premières strophes de ce psaume 68B. Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous sachions où aller quand nos chemins se perdent, que faire quand notre avenir est incertain, que pouvoir quand nous sommes au bout de nos forces. Oui, Seigneur, de notre espérance et de notre vie, nous te cherchons dans la méditation de ces témoignages anciens qui sont dans la Bible. Oui, nous t'espérons, ô toi, source de la nouveauté de vie. Cette histoire de Samson, elle est clairement exagérée. Sa force est exagérée, évidemment, car comment un seul homme pourrait renverser les colonnes d'un grand temple ? Ces colonnes étaient certainement énormes, puisqu'elles pouvaient supporter un toit sur lequel prenaient place 3000 personnes. Alors comment un homme seul peut massacrer aussi une armée de 1000 soldats avec seulement une mâchoire d'âne à la main ? Donc oui, sa force est exagérée, mais son habileté et sa ruse aussi. Car comment est-ce qu'on attrape déjà un renard, un seul renard ? C'est pas facile, car cet animal est assez rusé, assez intelligent. Alors comment peut-il attraper 300 renards, arriver à trouver 150 ficelles, accrocher les renards queue à queue, à le trouver 150 flambeaux, accrocher les flambeaux, allumer les flambeaux tous en même temps, les mettre un peu... C'est quand même... invraisemblable, si vous voulez, cette histoire. Il faudrait être extrêmement organisé. Alors, quand un récit de la Bible exagère, ce n'est pas qu'il nous prenne pour des débiles qui allons gober n'importe quelle histoire ridicule. Non, au contraire. Au contraire, quand le récit de la Bible exagère, c'est pour nous dire, oui, voilà, je vous invite à réfléchir sur votre propre existence. Et dans ce texte, nous avons là un peu un type, si vous voulez. Et donc, la force exagérée, ça parle de notre force. Personne n'a une force infinie. Donc, nous pouvons nous dire, je vais lire ce récit et l'adapter à ma propre existence. Quand on parle d'une intelligence comme ça, incroyable, miraculeuse, ça nous dit, vous aussi, vous avez de la débrouillardise. Et donc, ce texte parle aussi de votre capacité à vous adapter, à trouver des idées. Et ce texte vous fait réfléchir sur cette question. Donc Samson, il a une force extraordinaire et ça nous appelle à nous dire, voilà, vous avez une force, une certaine force, reconnaître cette force, peut-être chercher à la développer et se dire, qu'est-ce que je vais en faire ? Comment l'utiliser ? Alors bien sûr, nous ne sommes pas capables de soulever une colonne qui fait 10 tonnes, personne ne le peut, mais nous sommes déjà capables de soulever une charge peut-être de 100 grammes pour les plus petits d'entre nous qui sont dans un landau ou dans les bras de quelqu'un. Nous sommes peut-être capables de porter une charge de 10 kilos, pour ceux qui sont partis à l'école biblique, derrière la croix. Nous, on est capables de porter une charge de 50 kilos, peut-être 100 kilos pour les plus costauds. Eh bien, avec la force que nous avons, comme le dit le livre des juges à Gédéon, nous sommes déjà capables de gagner un peu des batailles contre le mal, et même peut-être des victoires prodigieuses. Alors il y a des hommes et des femmes même qui ont changé l'avenir du monde en soulevant un simple stylo qui pesait 10 grammes et dans ce geste prodigieux, ils ont pu changer le monde. Comme quoi, Nous avons une force et en sachant l'utiliser, nous pouvons, oui, commencer à faire reculer le mal, la souffrance et l'injustice. Alors bien sûr, nous n'aurons jamais une force infinie, mais ce texte nous propose un super-héros avec une force très grande et ça nous invite à travailler pour que notre force se développe. Nous pouvons soigner notre corps, nous pouvons le fortifier, le nourrir, l'entretenir, apprendre à le connaître pour ne pas le blesser. Et cette histoire de Samson nous dit qu'il est bon, oui, d'avoir une certaine force, car c'est bien utile pour agir en ce monde, pour lutter contre le mal, contre ceux qui font du mal, à nous, mais aussi à ceux qui nous sont chers. Alors Samson a une grande force. Samson a aussi une débrouillardise formidable de l'intelligence. Il sait trouver des moyens nouveaux, originaux, pour s'en sortir contre le mal. C'est bien trouvé. Son histoire des 300 renards et des flambeaux accrochés entre leurs queues. C'est bien trouvé cette mâchoire d'âne qui était là par terre et qu'il peut utiliser pour massacrer, non pas des hommes, bien sûr, c'est pas ce à quoi nous invite ce texte, mais massacrer la méchanceté, massacrer l'injustice dans ce monde. Car les Philistins, oui, bien sûr, c'est ça que ça évoque dans la Bible, le résultat de la méchanceté et de l'injustice humaine. Et nous avons vocation, comme Samson, à travailler sur cette question dans le monde. Alors nous pouvons développer notre force, nous pouvons aussi soigner notre intelligence, notre débrouillardise, notre clairvoyance pour discerner ce qui est bien, ce qui est mauvais dans ce monde. Et Jésus nous montre particulièrement l'exemple dans ce domaine. Il aime les gens, il sait vous faire la part des choses entre ce qui est bien et ce qui est mal dans chacun, de ne pas voir que leurs défauts, mais aussi ce qu'ils pourraient devenir s'ils progressaient. Et puis Jésus sait se débrouiller avec les moyens du bord. Grâce à son sens de la répartie, il arrive à mettre à profit les choses banales de la vie en ce monde pour montrer quelque chose d'essentiel sur la façon de vivre, sur la théologie, sur Dieu, sur les rapports entre nous. Il arrive aussi à trouver une issue à bien des situations impossibles face à la méchanceté. Il sait se faufiler alors qu'il était encerclé de personnes qui voulaient le tuer. Il sait nourrir une foule tout entière avec le seul exemple d'un garçon qui accepte d'ouvrir son sac pour en tirer un quignon de pain et un vieux bout de sardine séchée. Il sait faire reculer une foule de fous furieux prêts à lapider une femme effectivement coupable. Eh bien, cette intelligence pratique, cela se forge avec l'expérience et cela se forge aussi grâce à l'Esprit Saint que Dieu nous donne pour nous éclairer et nous donner un sens créatif. Et nous voyons bien souvent les apôtres de Jésus manquer de ce bon sens lumineux qu'avait Jésus, mais ce n'est pas trop grave, ils disent un peu des bêtises, ils font un peu n'importe quoi, mais ils observent, Jésus les reprend, et à chaque pas, ils apprennent la vie, en discutant aussi les uns avec les autres, et cela, je crois, nous apprend à avancer grâce à l'Évangile, grâce à ce dialogue fécond de la foi. Samson a un autre don important, en plus de la force, en plus de la débrouillardise, c'est celui de la joie de vivre. Oui, cet homme aime vivre. Le Christ avait aussi une formidable envie de vivre, joie de vivre. Lui qui commence son Évangile avec un programme composé de 8 promesses de bonheur, 8 appels au bonheur. Et Jésus aimait aussi, nous dit le texte biblique, il aimait manger et boire avec les gens et il n'avait absolument pas envie de mourir, le pauvre. Donc la joie de vivre aussi, ça se saisit en reconnaissant la moindre étincelle de vie qui nous traverse, de joie de vie qui nous traverse. Ça se travaille en cultivant la qualité du regard qui nous permet de nous réjouir au soir d'une journée, de toutes nos journées, comme David qui dit sincèrement « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. » Eh bien, ce regard, ça se travaille. Bien sûr, nous n'aurons pas la force formidable de Samson, nous n'aurons pas une débrouillardise géniale, nous n'aurons pas non plus une joie parfaite, de sorte que oui, nous ne sommes pas un super-héros, mais nous avons une force, nous avons une débrouillardise, nous avons une joie de vivre, et cela aussi se travaille, se muscle et s'attrape. La joie de vivre, ça se vit collectivement aussi. Et cela, c'est peut-être aussi la nouveauté de l'Évangile à laquelle le Christ nous appelle. De sorte que celui qui pleure peut être un peu soutenu, consolé, réjoui quand même par quelqu'un qui lui tend la main. Et chaque fois qu'il y en a un qui est joyeux, par cette solidarité aussi, eh bien les autres se réjouissent de la joie des autres au lieu d'en être jaloux. L'Ancien Testament, il présente ainsi un certain nombre de champions tout au long de ses histoires, comme Samson en est un. Bon, en général, l'Ancien Testament ménage aussi des défauts à ces champions de la foi, même à Abraham, même à Moïse, même aux autres, bien sûr, et à Samson en particulier. Jésus-Christ, il nous encourage, bien sûr, à développer nos qualités personnelles et il nous apprend à nous ouvrir à Dieu pour que Dieu nous développe en nous ses qualités personnelles, bien sûr. Mais il nous invite aussi à avoir également une force, une intelligence et une joie collective. Une force qui consiste à ce que chacun puisse faire, oui, ce qu'il peut à sa place selon sa vocation personnelle, mais aussi en équipe avec d'autres. Et nous le voyons souvent dans des exemples des évangiles. Par exemple, quand il y a des histoires où il y a une personne qui est blessée, qui est malade dans l'évangile, et puis c'est d'autres qui vont l'amener progressivement vers Jésus ou amener Jésus vers elle. Et donc il y a toute une chaîne de personnes avec des petits gestes, des attentions et des paroles, un certain pouvoir aussi, qui vont finalement permettre que la personne soit sauvée par Jésus. Aucune des personnes de la chaîne n'aurait pu, à elle seule, sauver la personne. Pas même Jésus, qui serait peut-être passé dans le village à côté et qui n'aurait pas su qu'une personne souffrait à quelques centaines de mètres de là. Mais grâce, voilà, aux uns, aux autres, les choses se mettent en place et ce travail d'équipe conduit à la vie. Donc oui, la force collective, c'est quelque chose que nous apprend l'Évangile. Et Jésus nous appelle aussi à travailler notre intelligence personnelle, bien sûr, mais aussi notre intelligence collective, issue du débat et de la pluralité des points de vue. C'est ainsi que nous voyons les apôtres souvent discuter entre eux, ensuite dialoguer avec Jésus de questions diverses. Et puis après la mort de Jésus, ils discutent entre eux pour faire évoluer la religion, pour prendre en compte la théologie et la foi du Christ. Eh bien, cette force, cette intelligence et cette joie collective, elles sont faites de nos forces, de nos intelligences et de nos joies individuelles, toutes reçues, mais aussi développées, mises en lien les uns avec les autres. Et elles peuvent être ainsi formidablement multipliées par celles des autres et en lien avec les autres. Dans ce domaine, il arrive que 1 plus 1 ne fasse pas 2, mais 1 plus 1 fasse 3. Peut-être même 10 ou 100, on le sait bien. Des fois, à deux, on est beaucoup plus que fort que trois personnes l'auraient fait si elles étaient séparées individuellement. De sorte, oui, que chacun de nous est capable de faire de grandes choses avec ses propres dons, mais de sorte aussi que l'ensemble des humains de bonne volonté soit vraiment ensemble un super-héros comme Samson, mais même mieux que Samson, car ayant ce mode d'emploi et cette dynamique à laquelle nous invite le Christ. Mais Samson a un autre don dans cette histoire, ou plutôt deux autres dons qui vont de pair, et ces dons, oui, là, nous les avons complètement, parfaitement, et ce sont des dons infinis. C'est celui d'être béni par Dieu et de recevoir de Dieu une vocation, une mission dans ce monde. Je vous l'ai lu tout à l'heure, avant même sa conception, l'ange de l'Éternel annonce aux parents de Samson: ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins, et Dieu bénit Samson et lui donne son esprit. Eh bien, ces dons-là, nous les avons tous, individuellement, personnellement et absolument. Chacun de nous est tout aussi béni, aimé et appelé à agir en ce monde que le Christ lui-même. C'est pas peu dire. De même que le Christ a été aimé, béni par son Père, Dieu nous bénit individuellement, personnellement. Et c'est vrai que Jésus avait une mission unique pour l'histoire de l'humanité, mais nous aussi, nous avons, chacun de nous, une mission unique, bien sûr, car la personne peut-être que nous avons à rencontrer cette semaine et que Dieu nous confie pour que nous l'aidions, ce n'est pas Jésus qui va venir lui tendre un bout de pain ou lui dire une parole aujourd'hui qui va la remettre debout, qui va lui donner un peu plus de joie, qui va la... Voilà, mais c'est... Non, ça sera notre main, notre bouche. Et cette personne nous est confiée personnellement. Et donc, nous sommes aussi, voilà, cette personne sur laquelle Dieu compte. Et ces dons spirituels qui sont ainsi donnés à Samson, ce ne sont pas les moindres des autres, de tous les dons qu'il reçoit. Ils sont au contraire la source de la fécondité des autres dons qu'il a reçus, la force, l'intelligence, la débrouillardise et la joie de vivre. C'est cela qui donne la clé de leur bon usage pour que la vie l'emporte. Car donc Samson a ainsi tout pour lui, mais ça ne suffit pas. Car si l'histoire de Samson finit dans un véritable massacre, c'est qu'il y a un problème chez cet homme, et même deux problèmes. D'abord, il est trop sûr de lui, et ensuite, c'est qu'il agit toujours par vengeance, et non pas positivement. Alors c'est vrai que Samson est si fort, si débrouillard, si heureux de vivre, qu'il ne s'en fait pas dans la vie. Il est fort, il fonce, et ne craint rien. Et ça, c'est une sacrée faiblesse, en fait. C'est une faiblesse dans la vie. Et du coup, il ne se méfie pas de Delila. Pourtant, c'est évident qu'elle essaye de le trahir, mais il trouve que ce n'est pas si grave, qu'il s'en sortira à chaque fois avec une pirouette, en se débrouillant ou avec sa force. Mais parfois, nous sommes ainsi tentés de flirter, finalement, avec de trop mauvaises compagnies pour nous. Ou bien nous sommes tentés de nous laisser aller un peu à la lisière du mal en se disant... Je vais y goûter juste un peu en passant, ou bien nous avançons comme sur un lac gelé en se disant « si je vois que la glace commence à se fendiller, il sera bien temps de revenir un peu en arrière ». Non, pas toujours en fait. Alors Samson est trop sûr de lui, c'est son premier défaut qui l'empêche d'avancer et qui va précipiter sa chute, qui l'empêche d'accomplir sa vocation. Le Christ nous propose cette piste « heureux ceux qui ont le cœur pur », c'est-à-dire le cœur non partagé. Alors oui, on peut se tromper, on peut faire des erreurs, on peut se faire surprendre par les difficultés, par notre propre faiblesse. Nous pouvons toujours compter sur Dieu, sur son aide, sur son pardon, ce n'est pas le problème. Mais lui, Samson, se met en danger en acceptant délibérément de vivre avec le mal au jour le jour. Alors ce n'est pas une question de faute, mais c'est juste une mauvaise idée. Car Dieu nous aide à ne pas aimer ce qui est mauvais. Et ça, c'est une grande bénédiction, je crois, de savoir ne pas aimer, oui, ce qui est mauvais, d'en avoir le dégoût. Le deuxième problème de Samson, c'est qu'il n'agit contre le mal finalement que par vengeance, tout au long de sa vie. Et en agissant ainsi par vengeance, il est toujours tourné vers le passé. Il combat le mal passé, mais justement, ce mal passé, il est passé. Et donc, il a toujours un métro de retard sur le mal. C'est le mal qu'il faut combattre, c'est le mal présent et c'est le mal à venir, plutôt. Dans une modeste mesure, nous pouvons apprendre du mal passé, de ce qui est passé, mais pas pour nous en venger, ça ne sert à rien, mais plutôt pour chercher à faire avancer la situation. Jésus nous encourage sans cesse dans son évangile, dans 1000 paroles, à une action positive, créatrice contre le mal. Alors, il y a là d'abord un problème de vengeance, c'est qu'on marche à reculons finalement, donc on risque de se prendre les pieds dans la carpette. Mais le second problème de la vengeance, c'est qu'elle nous pousse à faire en fait n'importe quoi. On le voit bien dans cette histoire. Samson, il a tous les dons, mais il est rendu fou par son esprit de vengeance, et cela se retourne contre lui. Sa force et son intelligence lui servent à tuer... On le voit dans cette histoire, les innocents avec les méchants, fous de vengeance. Alors des gens lui ont crevé les yeux, oui c'est vrai que c'est terrible, mais du coup il va, dans son esprit de vengeance, il va même tuer l'enfant qui le servait de guide, puisqu'il était aveugle. Sa folie de vengeance lui fait tuer des princes de Philistins qui étaient méchants, mais aussi toute une foule qui était là simplement pour se réjouir. Au lieu d'avancer, il anéantit. Et il va même jusqu'à mettre sa foi et sa prière à Dieu au service de sa folie meurtrière. Alors bien entendu, ce n'est pas Dieu qui lui permet d'accomplir ce formidable massacre. Effectivement, donc il prie Dieu, mais dans le texte biblique, on voit qu'il n'y a aucune réponse de Dieu, alors que toutes les autres fois dans l'histoire ou dans les pages de la Bible, quand Dieu intervient, il y a marqué, je ne sais pas, l'Esprit de l'Éternel à ce moment-là fut sur lui, ou bien l'Éternel fit ceci, fit cela. Non, ici rien, c'est sa propre folie qui lui donne une force prodigieuse. Et il est si fixé sur ce qu'il veut de Dieu qu'il ne peut même pas entendre la parole de Dieu qui lui ferait voir clair, ni sentir le souffle créateur de Dieu qui briserait les chaînes de sa colère, de sa souffrance, de son désir de vengeance. Mais quand la folie de la vengeance nous prend, c'est bien difficile de lutter. Même Dieu a du mal à franchir cette carapace de colère et de haine qui nous prend. C'est avant, finalement, c'est au jour le jour que nous pouvons demander à Dieu de nous donner un regard créateur et non un regard vengeur. Un regard positif qui crée la vie plus belle plutôt qu'un regard qui crée, qui cherche, qui a soif de massacre. Un regard tourné vers l'avenir et non un regard tourné vers le passé. Et donc c'est important de ne pas rester seul tout au long de sa vie, mais de se préparer d'être en relation à Dieu et d'être en relation avec les autres. C'est avant, c'est au jour le jour, avant le jour de cette colère et de cet esprit de vengeance qui monte. C'est au jour le jour que nous pouvons construire des liens de foi et de prière pour nous habituer à ouvrir notre cœur à Dieu pour le bien et non ouvrir nos cœurs à n'importe quelle voix qui nous transforme en esclaves d'une colère, d'un esprit de vengeance. Nous ouvrir les oreilles à une voix qui coupe les tresses de bénédiction qui étaient sur nos têtes. Des voix qui nous aveuglent, qui nous font vouloir tuer et même mourir. C'est au contraire au jour le jour qu'il faut bien shampouiner finalement ces bénédictions qui nous viennent de Dieu, ces forces, cette intelligence, cette débrouillardise, cet amour, cette moindre étincelle de joie de vivre qui nous habite, cette envie de faire avancer les choses pour le plaisir de voir les choses avancer. Alors Dieu ne nous abandonnera pas, même si nous sommes pleins de colère et de vengeance et de meurtre, mais il n'est pas facile à Dieu de nous aider si dans notre folie meurtrière, nous lui demandons de tuer au lieu de lui demander la vie finalement. Samson ne s'est apparemment jamais habitué, jamais préoccupé de bavarder un peu avec Dieu au jour le jour avant. Il ne l'a jamais laissé réorienter ses regards pour avoir faim et soif de justice et non d'être pourfendeur de l'injustice. Faim et soif pour aimer la vie et non pour aimer la mort, la vengeance, pour être artisan de paix plutôt que de persécuter les autres, même pour la justice, ce n'est pas une bonne idée. Et donc c'est cela que nous apprend l'Évangile. Et c'est cela, la bénédiction et la vocation que Dieu a donnée à Samson, c'est le mode d'emploi pour apprendre à vivre en utilisant les formidables capacités, oui, que nous avons, tous ces dons que nous avons pour faire vivre et pour vivre dans le bonheur en plus. Et c'est cela aussi, cette bénédiction de Christ qui nous appelle, oui, à compter sur Dieu, certes, mais aussi à nous aimer les uns les autres. Car si Samson n'est pas assez proche de Dieu, c'est vrai, il n'est pas non plus assez proche des autres. Et on le voit finalement très solitaire tout au long de sa vie. Il n'a pas de vrais amis qui sont là pour le soutenir quand ça ne va pas. Car quand tout d'un coup la colère nous prend, il n'y a que quelqu'un qui nous aime vraiment et que nous aimons, qui peut briser cette sorte de folie, de colère et de haine. C'est cela qui lui manque. Seul l'amour de Dieu, seul l'amour d'une personne que nous aimons peut nous guérir du désespoir contre le mal et nous faire guérir de la colère. Que Dieu nous soit ainsi en aide et que les uns par les autres, nous soyons vivants et source de vie. Amen.